Nous avons besoin continuellement de venir à lui, de rester dans le silence. Tant de voix, de bruit nous agressent dans ce monde, n'est-ce pas vrai? Il y a tant de choses qui nous agressent, des voix contraires, des pensées qui nous éloignent du Seigneur, que nous avons besoin de nous imprégner de sa présence et de sa parole. Amen. Car ses paroles sont esprit et vie. Sa parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Jésus a dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Cela voulait dire que les paroles de Jésus, lorsqu'elles étaient bien acceptées, purifiaient les cœurs. Amen. Et cette parole a un effet, est comme une eau qui purifie, c'est comme une eau qui désaltère, mais comme une eau qui nous purifie, qui nous lave. Amen. Beaucoup de problèmes peuvent être résolus simplement à la prédication de la parole. Le mal et le problème dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de prédication de la parole. On passe beaucoup de temps dans des entretiens, mais peu de temps dans la prédication de la parole. Et laissez-moi vous dire une chose, si on passe plus de temps à la prédication de la parole, on passera beaucoup moins de temps dans des entretiens. Amen. Car cette parole aura un effet extraordinaire, une purification dans nos vies, répondra à nos problèmes, nous aidera à résoudre des problèmes insurmontables. La réponse est dans la parole. Alléluia. Nous ne devons jamais négliger l'enseignement de la parole. Prêche la parole, disait Paul à Timothée. Insiste en tout temps, en toute occasion. Prêche la parole. Et vous savez, dans le texte grec, quand Paul dit prêche la parole, dans l'expression grecque, c'est une expression de répétition. Ça veut dire prêche, 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 prêche. Prêche cette parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils auront toutes sortes d'idées, de pensées contraires. Toi, Timothée, il n'y a qu'une réponse à cette séduction et aux fausses doctrines. Prêche, 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 prêche cette parole. Alléluia! Car ces paroles sont esprit et vie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Vous pouvez être guéri en écoutant la parole de Dieu. Vos problèmes peuvent être résolus en écoutant la parole de Dieu. Vos chaînes peuvent tomber en écoutant la parole de Dieu. Alléluia! La parole de Dieu demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a un temps où les hommes ne supportent plus la prédication de la parole. Plus que jamais, nous en avons besoin. Amen. Et ne pas dire, « Oh, mais je sais ces choses-là. » À partir du moment où nous disons, « Oh, nous savons ces choses. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la démangeaison d'entendre de nouvelles choses. Et si nous avons cette démangeaison-là, alors nous sommes très malades spirituellement. La réponse n'est pas dans un autre évangile, dans de nouvelles philosophies ou dans de nouvelles doctrines alléchantes qui promettent de grandes choses. Ils promettent de grandes choses, mais ils ne réalisent rien du tout. Ce ne sont que des paroles. Et s'il y a des résultats, c'est des résultats momentanés qui touchent les sentiments, c'est tout, mais qui ne vont pas dans la profondeur du cœur pour changer les vies. Alléluia! Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Sa parole est comme une épée tranchante, pénétrante, qui vient séparer jointures et moelles. Âme, esprit, alléluia! Cette parole a la réponse à tes problèmes. Cette parole est une nourriture qui nous fortifie. Nous ne devons jamais nous en lasser. Amen! Nous tournons en rond bien des fois dans notre vie spirituelle parce que nous négligeons cette parole. Nous ne nous en nourrissons pas assez. C'est l'ignorance de cette parole qui nous conduit dans des problèmes parfois insolubles. Nous sommes dans des situations impossibles parce que nous avons négligé sa parole. Il nous faut revenir à cette parole. Mes amis, la preuve que le Saint-Esprit agit au milieu de nous, cette parole met toujours en évidence, cet esprit mettra toujours en évidence la prédication de la parole de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu commence à voir que le Saint-Esprit agit dans ma vie, au milieu de nous. Comment savoir? Comment le savoir? Il y a un test infaillible. Quand le Saint-Esprit agit, il met toujours en évidence l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia! Il n'y a plus à dire, oh, tel théologien pense ceci, tel autre pense cela. Ce qui est important, oui, mais vous dites, mais il a des doctorats celui-là, vous n'êtes rien du tout. Il sait le grec et l'hébreu. Peu m'importe qu'il sache le grec ou l'hébreu, s'il ne connaît pas sa parole, cela ne sert à rien du tout. La parole de Dieu est indispensable. Alléluia. Comment rester rempli de l'Esprit? Comment expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit? Actes chapitre 2 nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Juste une petite remarque ici qui est merveilleuse. Et ils furent tous. La volonté de Dieu, c'est de tous nous remplir du Saint-Esprit. Amen. Et de rester remplis. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont rachetés par son sang, ont ce privilège de recevoir cette grâce divine. Il n'y a point d'exception. Amen. Absolument point. Dieu veut te remplir, Dieu veut te baptiser et Dieu veut te garder rempli. Amen. Nous en avons besoin. Dans ces temps de la fin, il nous faut rester rempli de l'Esprit. En restant rempli de l'Esprit et rempli de la parole de Dieu, nous aurons une vie chrétienne victorieuse. Et nous ne nous laisserons pas emporter à tout vent de doctrine. Voyez-vous emporter ? Quelqu'un qui est emporté, vous avez vu les feuilles, hein? En automne, les feuilles, quand le vent souffle, les feuilles s'envolent, parce qu'une feuille est légère, la feuille, il n'y a rien du tout, il n'y a rien dans la feuille, c'est léger. Mais quand on est rempli, quand quelque chose est rempli, est-ce que vous pouvez le faire emporter comme ça, à tout vent? Non, quand quelque chose est rempli, ça ne bouge pas, c'est stable. Amen. Pourquoi est-ce que certains sont emportés à tout vent de doctrine? Certains disent, ah oui, tu sais, moi, voilà, le Seigneur m'a montré ça, et puis Dieu ceci, Dieu ça, et tout. Voilà, et, ils ne connaissant pas leur Bible, ils acceptent n'importe quoi. Ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu, et la moindre suggestion, quelqu'un vient avec une expérience extraordinaire. Il y a quelque temps, j'étais chez des amis, et on regardait la télévision où il y avait une émission religieuse. Ceci pour vous dire que... Et puis, il y a un monsieur, soi-disant, qui était là avec d'autres, et ils l'ont interviewé. Cet homme, il était là parce qu'il avait fait des expériences apparemment extraordinaires. Et vous savez quelles étaient ces expériences? On lui a posé la question. Alors, il paraît que vous avez eu 30 visions de Christ. Il a dit oui. 30 visions du Christ. Ah bon? Alors, naturellement, lui, il pensait que c'était le vrai Christ, c'est pas vrai? Et il est convaincu encore maintenant. Mais après, quand on lui a posé quelques questions, voyez-vous, quand quelqu'un vous dit ça, vous dites, oh là là, bon, ben... C'est peut-être vrai, hein? On ne sait pas, on ne veut pas douter. Mais il faut toujours tester pour voir un peu ce qu'il y a là derrière. Vous êtes d'accord? On ne dit pas oui et amen comme ça à n'importe quoi et n'importe qui. Après, ils lui ont posé quelques questions, parce qu'il y avait plusieurs religions qui étaient là, plusieurs personnes de différentes religions. Et on lui a dit, alors, bon, ben si, quelle est votre position par rapport aussi
aux autres religions, mais elle dit, de toute façon, toutes les religions se valent.
Ah, la lumière est faite. Amen. La lumière a été faite. Alors cela prouve vraiment que le Christ qu'il a eu comme révélation, soi-disant, entre guillemets, n'était pas le vrai Christ, mais c'était un faux Christ. C'était Satan déguisé en ange de lumière. Car si c'était le vrai Jésus-Christ que nous connaissons dans la Bible, que nous aimons, qu'est-ce qu'il lui aurait dit ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il lui aurait dit ça, au moins, pour commencer. Amen ! Amen ! Il lui aurait dit ça, au moins. Il lui aurait dit, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Et lui, il est en train de raconter qu'il y a 1000 chemins qui mènent au ciel. Cela prouve qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Voyez-vous, mes amis, on peut avoir des visions, des révélations, mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est très dangereux. Nous ne pouvons pas les tester, nous ne pouvons pas vérifier si ça vient de Dieu. On peut avoir beaucoup de visions, mais beaucoup de visions ont besoin de révision aujourd'hui. Dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils ont des visions, mais qui ont besoin d'être, de passer par une révision profonde. Alléluia! Ce n'est pas parce que tu as une vision que ça vient forcément de Dieu. Il faut que tu le saches. Et ce n'est pas parce que tu fais une expérience qu'elle vient forcément de Dieu, parce qu'elle t'a fait du bien. Là encore une autre séduction. Ah, mais moi ça m'a fait du bien. Ah, voilà, oh, on m'a fait ceci, on m'a fait ça. Ah, oui, mais même une expérience qui te fait du bien ne vient pas forcément de Dieu. Cette expérience doit toujours trouver son appui et son fondement dans la parole de Dieu. Amen. Si cette expérience n'est pas dans la parole, si les apôtres, le Seigneur, n'ont pas conduit les premiers chrétiens dans cette expérience, alors nous n'en voulons pas. Amen. Même si c'est une bonne expérience, je n'en veux pas. Les apôtres n'ont pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Je n'en veux pas. Oui, mais c'est formidable. Formidable, il n'y a pas de formidable ou pas formidable. Je n'en veux pas. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui mettent l'expérience avant la parole de Dieu. Et c'est cela qui tombe dans beaucoup de séductions. Écoutez-moi bien, c'est très important. Ah oui, mais mon, oui, oh là, c'était bien. Mais comment ? Est-ce que c'est biblique ? Est-ce qu'il y a un fondement biblique ? Est-ce que tu peux me le prouver par la parole ? Si tu ne peux pas le prouver, tu dois rejeter cette expérience. Amen ? Ça, c'est un point très, très important sur lequel nous devons tous veiller. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! C'est pourquoi nous devons être remplis de la parole. Et c'est alors que nous ne serons pas séduits. Ne l'oublions jamais, l'esprit et la parole vont toujours ensemble. Plus nous sommes remplis de la parole de Dieu, plus nous serons remplis de l'esprit de Dieu. Amen ! Alléluia ! Vous savez comment Jésus lui-même a résisté à Satan ? Dans le désert. Hein, comment est-ce qu'il lui a résisté ? Le diable lui a dit, il est écrit. Mais le Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il est aussi écrit. Voyez-vous, le diable voulait le tenter avec un verset de la Bible. Le diable aussi vous tente avec un verset de la Bible. Beaucoup de chrétiens prennent, quand ils vous parlent de leurs expériences, ils vous prennent un verset. Mais c'est un verset qui est pris en dehors du contexte. C'est un texte pris hors du contexte. Et comme quelqu'un dit un jour, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Parce que vous pouvez faire dire à la Bible ce que vous voulez si vous prenez un texte hors de son contexte, n'est-ce pas vrai ? Et c'est ce que le diable faisait, il lui prenait un texte, mais hors du contexte. Et Jésus a dit, il est aussi écrit. Seulement connaître un verset ou deux par-ci par-là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Certains chrétiens ne connaissent que quelques versets. Certains maris, eux, ils connaissent que le passage, le mari est le chef de la femme, ils connaissent que ça dans la Bible. Et vous leur demandez où c'est, ils savent pas si c'est dans l'Apocalypse. Mais ils savent que c'est quelque part. Voilà, alors vous voyez, c'est tout ça. Voilà. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, mes amis, on peut être emporté à tout vent de doctrine. Il nous faut, chaque chrétien, et c'est ce que Paul disait à Timothée, prêche. Prêche, 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 prêche. Ne te lasse pas en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. Prêche, prêche, prêche. Alléluia. Amen. Prêche. Et j'ai vu cela au Burundi. Je crois que le Seigneur conduit un peu les choses différemment. Mais au Burundi,
Quand ce passage que je viens de vous dire, on l'a expérimenté là-bas, de prêcher en tout temps et en toute occasion. Lorsque nous avons commencé notre campagne, vous savez, vous voyez les résultats, là, c'est merveilleux, vous devez vous dire, oh, c'est formidable, et tout se passe facilement. Détrompez-vous. Ça a été notre campagne la plus difficile. La plus difficile. Le diable a voulu mettre les bâtons dans les roues sur place, dans les deux villes, Gitega et Bujumbura, dans ces deux villes-là, eh bien, le diable a voulu nous arrêter, nous décourager. Et le Seigneur nous a appris quelques leçons très importantes pour nous, pour la suite dans les autres campagnes. Et c'était à Gitega, donc cette deuxième ville qui se trouve à peu près 1600-1700 mètres d'altitude, quand on a fait notre campagne là-bas, c'était la première fois qu'il y avait une campagne en plein air comme cela. Il y avait des campagnes bon, dans les églises et tout, mais une campagne en plein air, ça ne s'était jamais fait dans cette ville-là, qui est la seconde ville du Burundi. Ça ne s'était jamais fait. Et le responsable nous disait ça, ben, les autorités sont là, tout le monde est là, tout le monde vous attend, tout le monde attend quelque chose. C'est la première fois que quelque chose comme ça se fait. Alors, on a commencé les réunions, le premier soir, c'était vendredi, samedi et dimanche. Le vendredi soir, nous sommes allés, bon, il y avait pas mal de monde, mais on s'est aperçu que beaucoup de ces gens étaient venus en curieux. Et le premier soir, bon, j'ai apporté un message, je sentais vraiment l'Esprit de Dieu, des âmes se sont converties, mais au moment où il fallait prier pour les malades, alors là, comme j'avais l'habitude de le faire après la prière, je demande aux gens de tout de suite venir rendre témoignage comme vous avez vu sur hier soir. Ce jour-là, le vendredi, premier soir de la campagne, personne vient. Ouh, je vous assure, j'étais dans mes petits souliers. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, un peu découragé au fond de moi-même, bon, finalement, je ne sais pas s'il y a eu un petit témoignage ou autre, mais enfin, ce n'était pas du tout ce qu'on attendait. Ben, j'ai dit, bon, ben, ça commence bien, il faudra maintenant commencer à bagarrer un petit peu et à combattre. Alors, on est rentré à la maison, dans notre chambre là-bas, et on s'est dit, Seigneur, ce n'est pas possible, tu ne peux pas nous laisser comme ça, on n'a que trois soirées ici. Si tu ne fais pas quelque chose dès les premiers jours, on n'est pas là 15 jours, il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et j'ai vu que nos frères aussi, africains, étaient un peu découragés. Il y avait tellement de gens curieux qui étaient là. C'était la première fois que ça se passait. Alors on le voyait, les gens, ils venaient là pour voir un peu ce qui allait se passer. Vous voyez où la parole n'avait pas vraiment pénétré dans les cœurs. Voyez-vous, ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Les miracles confirment sa parole. Et sa parole prêché, mais aussi reçu dans les cœurs. Amen. Alors, bon, on s'est dit, on a prié toute la journée, on s'est dit, Seigneur, c'est pas possible, on peut pas partir comme ça, aller à Bujumbura lundi sans faire qu'il se passe quelque chose. Alors, on a prié toute la journée du samedi. Et le samedi, vous savez pas ce qu'il y a? Toute la journée, il s'est mis à pleuvoir. La pluie, cette fois. On dit, Seigneur, hier soir, c'est un peu la catastrophe. Et maintenant, c'est la pluie. Alors, il pleut pendant 2-3 heures. Ça s'arrête 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, alors, on priait, Seigneur, arrête cette pluie, fais quelque chose. On a prié, on a bagarré, je vous assure. Et on s'est dit, peut-être, on allait à la réunion, c'était vers les 4 heures à peu près de l'après-midi. On s'est dit, ça y est, ça va se calmer un petit peu. On arrive vers les 3 heures, 4 heures, la pluie continue. Mais de temps en temps, on entendait des chants au loin. Nous étions à combien? Peut-être 2 kilomètres du lieu de la campagne. Et de temps en temps, on entendait des chants. Je disais à Dorothée, mais tu entends? Il pleut. Mais c'est eux qui chantent là-bas. Ils sont là-bas, à la réunion. Ils chantent en plein air. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment? Mais il doit y avoir personne à cette réunion. Et on entend chanter. Alors, je vous assure, c'est là que le Seigneur voulait m'apprendre une leçon. Et je me suis dit, bon, ben, ce soir encore, ben, la soirée est gâchée, c'est fini. Ben, alors, avec la pluie, qui est-ce qui va venir? Là, il n'y aura personne. Et je me suis dit, bon, ben, certainement que la réunion ce soir sera arrêtée. Mais enfin, les amis devaient venir nous chercher, le pasteur devait nous chercher vers les 4h30, comme cela. Et on est quand même resté dans la prière, dans la louange, on louait le Seigneur pour se tenir prêt. Amen. C'était rempli. Alléluia. Hein, c'est comme les boxeurs, hein, quand, avant d'aller faire le match, hein, ils ne vont pas se balader. Hein, vous avez vu ça? Hein? Ils se maintiennent au chaud, il n'y a pas d'histoire, le combat est là-bas, il faut. Hein? Reste, et concentré, concentré. Alors nous sommes maintenus, mais je vous assure, les 4 heures, 4h30 en plus, il est venu un peu tard ce jour-là. J'ai dit à Dorothée, tu vois, il arrive en retard, il va sûrement venir pour nous dire, pas de réunion ce soir. Pas de réunion, c'est la pluie, il pleut, alors, voilà. Bon, vers les 4h15, 4h30, voilà qu'une voiture arrive, c'est notre pasteur qui arrive. Alors il arrive comme ça, il est tout souriant, lui, il s'en fait pas. Et puis moi je m'attendais à ce qu'il dise, frère Sam, bon bah, ce soir il n'y a pas de réunion, il pleut, alors. Alors je lui dis, alors, c'est le frère, j'ai dit, alors, bon, il pleut, hein. Il me dit, je lui dis, alors en fait, ça marche, il y a la réunion. Il me dit, mais oui, il y a la réunion. Les pasteurs vous attendent là-bas, tout le monde est là-bas, et on vous attend. Je vous assure, alors là, je me suis dit, aïe, 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 bon, bah, j'ai dit, oui, d'accord, on y va, on y va. On s'était quand même préparé, hein. Alors, on s'était préparé, on était tranquille, mais voyez-vous, il y avait un combat qui était là. On n'avait pas peur, on était prêts. J'ai dit, oui, on y va, on y va. J'ai pas osé lui dire tous les combats qu'il y avait eu en nous, vous voyez. Je voulais pas le décourager, il était plein de foi. C'était moi qui n'étais pas dans la foi. Alors, il dit, on y va, on y va, on y va. D'accord, ils sont là-bas, oui, ils viennent. J'ai dit, mais ils sont sous la pluie. Alors, ils chantent, ils chantent. Alors, on arrive là-bas. Eh bien, laissez-moi vous dire, je vous dis cela parce que je pensais pas vous dire ça, voyez, le Seigneur fait différemment. Mais pour vous dire que là, vraiment, on a pris une leçon. Quand on est arrivé sur place, bon, il y avait peut-être un peu moins de monde que la veille. Effectivement, on est arrivé, il pleuvait comme ça. Et nous avons vu nos amis africains qui étaient là, sous la pluie, personne n'avait un parapluie. Et tous chantaient, louaient le Seigneur de tout leur cœur. Et même quand ils se levaient, ils dansaient, ils étaient... Il y avait une meilleure ambiance, un meilleur esprit que la veille, où tout était bien, il faisait beau et tout. Mais ce soir-là, j'ai vu sur le visage de nos amis africains une foi, une détermination. Rien, ils étaient trempés. Et on a l'impression que ils s'étaient dit, il n'y a pas d'histoire, rien ne nous arrêtera. Et quand on les a vus louer le Seigneur sous la pluie, chanter, bénir le Seigneur, on ressentait la présence de Dieu. La veille, ce n'était pas la même chose. C'était quelque chose, on n'a jamais vu ça dans nos campagnes. C'est la première fois qu'on voyait ça. Et je vous assure, il y avait, malgré la pluie, les gens trempés, il y avait des enfants qui étaient là assis sur les bancs aussi, les enfants trempés, et ça chantait, et ça chantait, et ça chantait. On a été profondément touchés. La présence de Dieu était là, c'était merveilleux. Et alors après, mon moment est arrivé pour de prêcher, j'ai prêché la parole. Alors, comme je le faisais d'habitude, et après, alors, je priais pour les malades. Je ne me suis pas laissé arrêter, j'ai repris courage. Et j'ai dit, maintenant, Satan, tu dois fuir dans le nom de Jésus. Alors, on l'a taillé en pièces. Et alors, après, la prière, bon, il y a eu l'appel, bien sûr. Encore beaucoup se sont approchés. Après la prière pour les malades, maintenant, j'ai dit, vous venez tout de suite ici. Pendant quelques minutes, ça bougeait pas beaucoup. Mais d'un seul coup, c'était comme une explosion. Des dizaines sont venues. Et malheureusement, ce jour-là, on n'avait pas de... La caméra n'était pas là. Notre frère belge, il devait venir seulement à Bujumbura, dans la capitale. Mais là, c'était, j'allais dire même, la plus belle soirée de toute notre tournée. Ce soir-là, 2 ou 3 aveugles, femmes, ont vu. Incroyable, quand elles sont venues là. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'étais un peu... Et puis alors, elle est là encore une fois, comme l'ennemi, des fois... On s'est dit à Dorothée, bon, avant de partir à la réunion, on se dit, est-ce qu'on prend l'appareil de photo? J'ai dit, il pleut, qu'est-ce que tu vas prendre comme photo? Il pleut, qu'est-ce que tu vas prendre comme photo? Ah, j'ai dit, laisse-la. Catastrophe. Le jour où il fallait prendre l'appareil, c'était ce jour-là. Et quand les gens venaient rendre témoignage, 2, 3 aveugles, deux folles, complètement folles, des personnes qui se déshabillaient devant les gens, sont venues rendre témoignage, tout complètement libres, quelques sourds aussi. Mais enfin, c'était vraiment magnifique. Et moi, j'étais là. Où est l'appareil? Il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien du tout. Je dis, prends des photos, il n'y a rien. Alors, je vous assure, là, j'ai appris une leçon. Le Seigneur voulait me dire, Sam, eh bien, qu'il pleuve, qu'il neige, j'allais dire, pas de neige là-bas, mais qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse n'importe quel temps, tu dois aller prêcher ma parole. Et je la confirmerai. Et c'est là que j'ai appris cette leçon, de prêcher la parole, quelles que soient les circonstances, prêcher en toute occasion, favorable ou non. Alléluia! Gloire à Dieu. Et c'est là que nous avons vu vraiment la gloire de Dieu. Le Seigneur est bon. Et je crois que il ne faut pas nous décourager et continuer de prêcher cette parole, quelles que soient les circonstances. Bien des fois, nous voyons les plus grands résultats dans des situations où il semble que c'est la plus grande défaite. N'est-ce pas vrai? N'avez-vous pas remarqué cela? La Bible dit que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts et que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Alléluia! Ne te laisse pas arrêter en disant, oh, mais moi je suis faible, Dieu ne peut pas m'utiliser. Non, c'est justement cette faiblesse que Dieu utilise. Amen. Si tu te croyais fort, Dieu ne pourrait pas t'utiliser. Si tu te croyais important, Dieu ne pourrait pas le faire. C'est justement quand tu te sens faible et que tu y vas par la foi, tu parles par la foi, tu témoignes par la foi, tu glorifies le Seigneur. C'est là que tu vois la main du Seigneur. Alléluia! Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et nous attendons de nous sentir forts. Et nous attendons, et nous attendons, et nous attendons toujours. Mais si vous dites, moi je suis trop faible pour que Dieu se serve de moi. Exactement. C'est cela que Dieu veut. Il veut justement que tu réalises ta faiblesse, mais que tu n'en restes pas là. Vous vous rendez compte? Si j'avais dit au pasteur, non, ben ce soir il pleut, qu'est-ce que tu voulais faire? On ne va pas prêcher. Ça aurait été la catastrophe. Et bien souvent, nous perdons de grandes bénédictions quand nous regardons trop aux circonstances, à nous-mêmes, à notre faiblesse, et nous disons, oh, c'est impossible, ça, c'est pas possible, il ne se passera rien, et ceci et cela. Non, non, en toute occasion, favorable ou non, alléluia! Parle, c'est sa parole, elle est pleine de puissance, alléluia! Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce soir-là, tous les curieux qui étaient venus comme ça pour... Eh bien, ils n'étaient pas là pour la pluie, à cause de la pluie. Et il n'y avait que les bonnes personnes. Amen! Qui en voulaient vraiment à Dieu. Alléluia! Finalement, au début, moi, je croyais que ça venait du diable, cela. Mais finalement, c'est le Seigneur qui a fait le triage. Bien souvent, nous pensons que les choses viennent du diable, alors que c'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu qui est en train de faire des choses qui nous dépassent peut-être. Mais Dieu est là. Alléluia! Alléluia! Il agit différemment de nous, mais il est là si nous lui faisons confiance. Est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Alléluia! Prêche la parole en toute occasion. Amen. Voilà, mes amis, ce que Dieu nous demande, c'est de vraiment d'être attachés à sa parole. Alléluia! Brièvement, nous allons quand même voir comment rester rempli du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit a trois dimensions. Et il nous faut comprendre ces trois dimensions pour pouvoir rester rempli du Saint-Esprit. C'est un point important. Il y a trois dimensions dans le baptême dans le Saint-Esprit. Première dimension, quand Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, nous allons le voir ici dans les Actes des Apôtres, la première chose que les apôtres ont fait, c'était quoi? Est-ce que c'était de prêcher? Non. Avant de prêcher, ils ont commencé à louer Dieu dans des langues différentes, n'est-ce pas? Et au verset 11, il est dit, voyez-vous, ils ont parlé un peu toutes les langues, là, ils louaient. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle en plus, maternelle? Vous voyez, les Parthes, les Mèdes, les Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes.
comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà la première dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Quand Dieu nous remplit, quand Dieu nous donne des langues nouvelles, c'est premièrement pour glorifier Dieu, pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Voilà une vérité importante. Quand le Saint-Esprit vient, l'évangile de Jean nous le dit bien, Jean 16, 14, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité et il me glorifiera. Voyez-vous, dès que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et sur tous ceux qui étaient là, ils glorifièrent Dieu. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand Dieu nous baptise dans le Saint-Esprit, la première des choses que nous faisons, c'est de glorifier Dieu, d'aimer Dieu, le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia! C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, il nous conduit à glorifier Dieu. Et plus nous glorifions le Seigneur, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous glorifions Dieu. Plus nous glorifions le Seigneur, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est lié, intensément lié. Quand on est rempli, on glorifie le Seigneur. Et quand on le glorifie, on est rempli. Alléluia! C'est pourquoi il est important, mes amis, non seulement de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et d'adorer le Seigneur, mais de continuer de le louer, de l'adorer, une fois que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont, soi-disant, été baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne connaissent pas la louange et l'adoration, et ils sont secs, ils sont desséchés intérieurement, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Et ils demandent au Seigneur de faire quelque chose, mais c'est toi qui dois faire quelque chose. Dieu t'a baptisé dans le Saint-Esprit pour glorifier le Seigneur. Maintenant, continue de le faire. Alléluia! Le Saint-Esprit glorifiera Jésus. Glorifie-le, c'est important. C'est pourquoi ces moments que nous passons dans l'adoration sont importants. Sont importants. C'est là que tu es renouvelé, que tu es fortifié. C'est là que l'Esprit de Dieu agit en profondeur. Amen! Et si tu le fais à la maison, là où tu es, à la maison, adorant, bénissant le Seigneur, tu resteras rempli du Saint-Esprit. Amen. Les merveilles de Dieu. Ah, combien le Seigneur est glorieux. Nous avons besoin de passer du temps dans sa présence à le glorifier. Lorsque nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes là pour le glorifier. Mais une fois que nous avons reçu, il faut continuer de le faire. Continuer de le faire. Continuez de le faire. Et là encore, écoutez-moi bien, il ne faut pas s'écouter. Vous savez, nous, si on s'écoutait, moi, je n'adorerais pas aussi. On a souvent pas toujours envie de le faire, n'est-ce pas? Nous devons toujours le faire par la foi, comme un acte d'obéissance et d'amour pour le Seigneur. Amen. Nous le faisons parce que la parole de Dieu nous le dit, et nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur, nous ne devons pas nous écouter. Oh, je suis fatigué, j'ai ceci, cela. Mes amis, le diable vous mettra toutes sortes de raisons. Et tout cela, il vous empêchera de le louer. Mais si vous avez compris que la première dimension de l'action de l'Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'abord de glorifier Dieu, de parler à Dieu, d'exalter Dieu, de le sauveur. Alléluia! Et personne d'autre, attention. Personne d'autre. Parce qu'il y a aujourd'hui, soi-disant dans un réveil charismatique, des tendances un peu dangereuses, où l'on adore Marie et les saints, où l'on prie et on dit c'est le Saint-Esprit qui agit. Mes amis, écoutez-moi bien, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit et qui vous fait prier Marie ou les saints. Le Saint-Esprit, quand il agit vraiment, il glorifie le Seigneur et personne d'autre. Alléluia! Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais, jamais. Ah, oh, vous dites, mais je sens, ça me fait du bien. Jamais. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend pour glorifier une seule personne, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Mes amis, lisez un peu l'Apocalypse, lisez l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation du futur, de ce qui va se passer dans le ciel. Est-ce que vous voyez qu'on adore Marie dans le ciel? Est-ce que vous voyez qu'on prie Marie dans le ciel? Est-ce que vous voyez un passage là-dessus? Aucun passage. Pourquoi? Parce que cela n'existe pas. Elle a été un instrument. Il lui a été fait une grâce d'enfanter le maître.
C'est tout. C'est tout. C'est tout. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Amen. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est lui seul, le Sauveur seul, que tu dois adorer. Car lui seul est digne. Qu'est-ce que nous entendons dans le ciel? Digne l'agneau. Digne. Il n'y en a qu'un qui est digne. Il n'y en a qu'un qui est digne de recevoir notre louange, notre adoration éternellement. C'est notre bien-aimé Seigneur. Alléluia! Alléluia! C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui s'est donné pour nous. C'est lui seul qui doit être adoré. Lisez l'Apocalypse et vous verrez que nous voyons Dieu sur le trône et l'agneau à sa droite. Alléluia! Et il n'y a personne d'autre et la multitude qui est autour acclame l'agneau et Dieu éternellement. Alléluia! C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous pousse à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit est jaloux. Il veut que toute la gloire revienne au Seigneur seul. Amen. Très important. Très important. Nous entendons tant de choses maintenant. Nous vivons des temps d'apostasie aussi. Ce que certains appellent réveil, soi-disant, aux yeux de Dieu, c'est une apostasie. Parce qu'ils renient la parole de Dieu. Ils ont des expériences qui ne sont pas bibliques. Ils ont des prières qui ne sont pas bibliques. Ils ont une adoration qui n'est pas biblique. C'est le mélange. C'est Babylone. Vous savez que ce que le mot Babylone veut dire? Confusion. Mélange. Il y a du vrai, mais il y a du faux. C'est ça, Babylone. Ça, c'est le diable qui fait cela. La Bible dit, Satan se déguise en... un ange de lumière. Ça paraît beau, n'est-ce pas? Un ange de lumière. Ah, formidable, formidable. Mais vous grattez un petit peu derrière. Il y a peut-être 90% de vérité. Mais pour que le diable vous fasse gober ces 10% de mensonges, il vous donne 90% de vérité. Mais ces 10% de mensonges, c'est du poison. Et ces 10%, et même un gramme de poison, vous suffit pour vous détruire. Il n'en faut pas beaucoup. Si le diable venait qu'avec des mensonges, des erreurs, vous le verriez tout de suite, n'est-ce pas? On dirait, oh là, n'est-ce pas? C'est trop flagrant. Ah, mais le diable est malin, il est rusé, il ne va pas venir avec des choses contraires comme ça à la parole tout de suite. Il vient avec la parole. Jésus par-ci, Seigneur par-là. Seigneur, le Seigneur, Seigneur, dans ces milieux, c'est ça, le Seigneur, le Seigneur, 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 mais quel Seigneur? Le Seigneur, Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Le mot Seigneur est dans la bouche, mais il n'y a pas d'obéissance à sa parole. Amen. Seigneur, Seigneur, combien nous devons veiller, veiller. Nous devons absolument faire attention. Alléluia. Et c'est pourquoi tout doit glorifier le Seigneur seul. Amen. Le Seigneur seul est personne d'autre, car Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne devons donner la gloire à personne d'autre. Ça, c'est un point très important, mes amis. Et nous vivons des temps de confusion. Et nous devons rester fermes au Seigneur et à sa parole. Écoutez-moi bien maintenant, une autre vérité importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais la parole n'est pas importante pour eux. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous faites de la parole, c'est ce que vous faites de Jésus aussi. Amen. Si vous négligez sa parole, vous négligez Jésus. Si vous mettez de côté sa parole, vous mettez de côté Jésus. Vous ne pouvez pas dire « j'aime Jésus » et « je n'obéis pas à sa parole ». Ça n'existe pas. Les deux sont intimement liés. Amen. Sinon, nous arrivons à de telles situations où les gens disent « Alléluia Jésus, est-ce que tu aimes Jésus ?» Mais ça ne suffit pas de dire ça. Si vous dites à ces gens-là, est-ce que tu aimes Jésus? Mais il va vous dire, mais bien sûr qu'il aime Jésus. Oui? Et puis alors vous êtes, mais j'ai entendu combien de gens dire, ah oui, mais vous avez vu, ils disent qu'ils aiment Jésus. C'est pas suffisant. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Regardez, le test du véritable amour est là. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc la question qu'il faut poser, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu dis là, ce que tu fais là, est dans la parole? Ah non, mais ça c'est mon église, c'est la tradition qui fait ça. Ah bon? Et Jésus a dit, vous anéantissez le commandement de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez que Jésus a été le plus sévère avec les gens religieux qui étaient des hypocrites. Par devant vous, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais par derrière, c'est l'idolâtrie, la désobéissance, la rébellion. Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu n'acceptera jamais ce marché-là. Amen. Il nous faut comprendre, mes amis, si le Saint-Esprit agit, il y a aussi un autre esprit qui agit. Un esprit de compromis, un esprit de mensonge, de séduction. Nous devons être attachés à la parole. Amen. La parole nous attache à Jésus. Et l'esprit nous attache à la parole. Alléluia. Alléluia. Si un chrétien a compris cela, il restera ferme, il sera rempli et ne sera pas emporté à tout vent de doctrine. Il sera fondé, enraciné dans la foi. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Première dimension, l'adoration. Le Saint-Esprit me pousse à adorer le Seigneur. Lui seul. Lui seul. Deuxième dimension, la deuxième dimension, ils étaient là tous ensemble. Quand on adore le Seigneur, seulement le Seigneur, c'est là que nous expérimentons la vraie unité. C'est l'unité autour du Seigneur et autour de sa parole. Voilà. Alors, les 120 étaient là à glorifier le Seigneur. Et comme ils glorifiaient tous le Seigneur et obéissaient tous à sa parole, ils étaient unis. Ils ont tous été bénis, visités. Amen. Il y avait donc là une unité spirituelle profonde. Et cette unité était basée sur quoi? Deux choses importantes, écoutez-moi bien, c'est très important cela. Premièrement, sur le Seigneur. Amen. Et deuxièmement, sur sa parole. Quand Pierre s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit, la première des choses? C'est là ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et plus, un peu plus loin, il dit ceci. Dieu l'a ressuscité et tout cela. Et il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Il est rempli de la parole. Alléluia. Il est rempli de la parole. Et il est rempli de Jésus. C'est la preuve qu'il est rempli du Saint-Esprit. La parole seule et rien d'autre. Jésus seul et personne d'autre. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire alléluia. 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 Voilà comment le Saint-Esprit agit. Premièrement, Dieu seul, Jésus seul est glorifié, personne d'autre. Deuxièmement, ils étaient unis autour de la parole. Ça, c'est la vraie unité. Unité fondée sur la vérité. Amen. Et toute unité qui n'est pas fondée sur la vérité de la parole n'est pas la vraie unité. C'est Babylone. C'est l'unité diabolique qui vient dans ce monde. C'est la grande Babylone qui commence à manifester son unité. L'unité entre les religions. L'unité avec n'importe qui. Mais la Bible dit que nous devons nous séparer de ces choses-là. Amen. La Bible parle d'unité, mais elle parle aussi de séparation. De se séparer de tout ce qui est faux, mauvais, qui n'est pas conforme à la saine doctrine. La Bible parle de se séparer de cela. Amen. Et c'est alors qu'on peut s'unir, unis autour de Jésus et de sa parole. N'est-ce pas merveilleux? Entre nous, qu'est-ce qui nous unit? C'est le Seigneur et sa parole, n'est-ce pas? Parce que vous aimez le Seigneur, je vous aime aussi, on s'aime. Et parce que vous aimez sa parole, eh bien on peut s'aimer aussi, vous êtes d'accord avec moi? Tu aimes sa parole, j'aime sa parole, on est tous les deux à aimer sa parole. Alléluia! Amen! Et ainsi, il n'y a pas de complication. Mais quand l'un dit, ah mais oui, j'aime sa parole, mais il faut encore ceci, il faut encore cela, voyez-vous, ça ne va plus. Il n'y a pas de loyauté. L'unité est basée sur la loyauté au Seigneur Jésus. Amen. On ne peut pas faire plaisir à quelqu'un et être déloyal envers le Seigneur, être un traître à l'égard du Seigneur. Faire quelque chose que mon maître n'approuve pas, est-ce que je peux le faire? Jamais, jamais, ne faites jamais ça. Même si on doit se moquer de vous, ne le faites jamais. Même si vous devez être seul, restez seul. Mais ne soyez jamais déloyal à votre maître. Ne soyez jamais déloyal à votre maître. Ah oui, mais tout le monde, ah oui, il y a beaucoup de monde dans ces réunions-là. Amen. Et il y en a beaucoup qui sont séduits par cela. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de monde, on ne vient pas. Là-bas où il y a plus de monde, ah, on y va. Qu'est-ce qu'on suit? Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau. Car il a été, le Père a trouvé bon de vous donner ce royaume. Mes amis, si vous cherchez la foule, vous serez séduits. Cherchez à obéir au Seigneur et à sa parole. Amen. Ne cherchez pas la foule. Ne cherchez pas la foule. Ça, je sais que ça plaît. Ça plaît. Ça flatte l'orgueil, n'est-ce pas vrai? Ça nous flatte. Oh là là, formidable, t'as vu ça? Oh là là. Des milliers de gens. Et ces gens, quand ils vont à ces réunions, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? La première chose qu'ils viennent vous dire, tu sais, il y avait beaucoup de monde. séduit. C'est tout ce que tu sais? C'est tout ce que tu as retenu de ta réunion? Il y a beaucoup de monde, c'est tout? C'est tout? C'est tout? C'est une tragédie! Il y a beaucoup de monde! Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu? Ah oui, Milouin, il a raconté, il a fait des expériences, ceci, cela, l'autre, ceci, cela. Et la parole, où elle est? Et bien que ça, on dit, alléluia, c'est merveilleux, on vit un réveil sans la parole n'est pas un vrai réveil, c'est l'apostasie. Amen. Mes amis, nous vivons des temps très sérieux. Je ne pensais pas du tout vous dire tout cela ce matin, pas du tout. Vous avez vu ça? Le Seigneur, il sait ce dont vous avez besoin, ce dont j'ai besoin. C'est important, important, important. Ne soyez jamais déloyal au Seigneur et à sa parole. Amen. Mes vrais disciples, a dit Jésus, vous êtes mes disciples si vous gardez ma parole. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus si tu ne gardes pas sa parole. C'est tout. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple. Ah, tu peux dire Seigneur, Seigneur, tu peux. Mais Jésus dit, à quoi ça sert? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je vous dis. Alors l'unité était là, autour du Seigneur, de son sacrifice, de sa résurrection et autour de sa parole. Amen. Là, c'est la vraie unité. C'est celle-là qu'il nous faut chérir et conserver. La Bible dit de conserver l'unité de l'esprit. Il n'est pas dit d'aller chercher l'unité. L'unité est déjà là, en Christ, autour du Seigneur et de sa parole. Nous sommes déjà unis. Amen. Alléluia. Alors, première dimension, c'est Dieu. On commence toujours avec Dieu. On le glorifie lui seul. Deuxième dimension, alors, c'est l'unité. C'est la communion réelle dans le Saint-Esprit et autour du Seigneur et de sa parole. Et troisièmement, la troisième dimension, eh bien, c'est le témoignage, la passion des âmes. Pierre se lève, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrie. Il se lève, et il dit, voilà, c'est ici ce que la parole de Dieu dit. Et il commence à témoigner. Ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont expérimenté, alors il l'apporte aux autres. Amen. Dans la louange, Dieu vous satisfait. Dieu est satisfait d'abord. Ensuite, vous, vous êtes satisfait. Et maintenant, vous qui êtes satisfait et rempli, vous pouvez satisfaire les autres et apporter la parole de Dieu aux autres. Amen. Les trois dimensions. J'adore. Dieu est satisfait car il recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Amen. Et quand je fais cela seulement pour le Seigneur et son Père, alors Dieu est satisfait. Bénédiction. Quand Dieu est satisfait, moi je suis satisfait aussi. Amen. Je suis satisfait. Sa présence est en moi. Et une fois que moi je suis satisfait, Dieu me dit maintenant, tu es prêt pour aller satisfaire le cœur des autres avec ma parole et ma présence. Je t'envoie. Et c'est ce qui s'est passé. Le témoignage était là. Pierre se lève, il est tout seul à prêcher. Mais il y en avait 119 derrière lui qui priaient. Amen. Qui était là derrière Pierre. Allez Pierre, vas-y, alléluia. Prêche la parole, prêche la parole. Et là, celui qui avait renié le maître, lui-même dit devant les autres, vous avez renié le Seigneur. Quelle transformation. Il avait cru au pardon de Dieu. C'est le pardon de Dieu qui avait fait tout cela. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, dans sa vie, qui lui a fait réaliser ce pardon et cet amour de Dieu. Alléluia! Et de telle sorte qu'il s'était complètement oublié lui-même. Vous avez renié le maître. Et pourtant, lui, il avait renié. Mais il était complètement délivré, transformé. Amen! Et la parole de Dieu était annoncée avec efficacité. Et Dieu confirmait cette parole. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Voilà ce que Dieu veut faire quand il nous remplit du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Ces trois dimensions sont là. Et tu ne dois pas garder pour toi ce que Dieu t'a donné. C'est important. Tu ne dois pas garder pour toi ce que Dieu t'a donné. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il faut que tu sois une bénédiction aux autres. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est ça. C'est ça. Un jour, j'avais lu le témoignage d'un frère qui demandait le baptême dans le Saint-Esprit et il ne le recevait pas. Et un jour, Dieu lui a dit, il priait, il ne recevait rien du tout. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu veux ce baptême dans le Saint-Esprit? Ah bon, pourquoi? Il dit, mais c'est pour moi. Dieu lui a dit, tant que tu le veux pour toi, tu n'auras rien du tout. Si je te donne le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être un témoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Et il a dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, c'était égoïste. Je te demandais pour être moi, pour moi. Pardonne-moi. Je veux être un témoin. Je veux être un témoin. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, maintenant, baptise-moi la sainte. Il n'avait pas fini la prière. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Dieu lui a donné des langues nouvelles. Et il est allé apporter aux autres ce qu'il a reçu. Amen. Ne garde pas ce que tu as reçu. Va, dis, parle. C'est quand tu parles que Dieu te donne, que Dieu se révèle à toi. Combien de fois j'en ai fait l'expérience, vous en avez fait l'expérience. Si vous vous taisez, vous attendez que les choses soient parfaites, vous ne ferez jamais rien. Ouvre ta bouche et il la remplira. Alléluia. Fais l'acte de foi. Renonce à toi-même. Donne-toi. Vis pour les autres. Alléluia. Ce que tu as vécu dans l'adoration, dans la présence de Dieu, apporte-le aux autres. Amen. Et tu verras Dieu t'accompagner. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment rester rempli de l'Esprit? N'oubliez pas ces trois dimensions qui ont été expérimentées le jour de la Pentecôte. Amen. Premièrement, Dieu glorifié, adoré. Deuxièmement, uni autour de sa personne et de sa parole. Et en formant un corps comme cela, tous unis, ils sont levés. Et quand Pierre a prêché, quelle prédication! Amen! Une prédication, 3000 âmes qui se convertissent. Et nous, 3000 prédications, on n'arrive même pas à sauver une âme. 3000 prédications, même pas une âme. Et encore quand elle se convertit, 15 jours après, il n'y a plus rien du tout. 15 jours après, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette présence, cette attente dans la présence de Dieu. On va, on brûle les étapes, on met la charrue devant les bœufs. Amen. Viens dans la présence, adore, loue. Le Seigneur, nourris-toi de sa parole. Remplis ton cœur, ton âme, tes pensées de la parole. Remplis, remplis ton être entier. Et va. Ouvre ta bouche. Et il la remplira, tu seras étonné de voir tout ce que le Seigneur peut faire. Mais si tu n'as pas cette parole dans ton cœur, dans ta bouche, si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on raconte des bêtises, n'importe quoi. Des choses qui ne sont pas bibliques, des fausses doctrines. Et si tu ne connais pas la Bible, tu tombes dans le panneau. Ça ressemble à Dieu, ça ressemble à des choses spirituelles, chrétiennes. Mais ce n'est pas, c'est du faux, c'est une contrefaçon. Ça ressemble, mais ce n'est pas la vérité. C'est une contrefaçon, c'est un ange de lumière. Il n'y a que celui qui connaît la parole de Dieu, qui peut voir clair. Et Dieu veut que nous soyons tous remplis de sa parole, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour sa seule gloire et pour le bien d'un grand nombre. Amen. Alléluia. Nous allons tous nous lever et nous allons passer un moment dans l'adoration maintenant. Ceux qui n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir là où vous êtes. Il faut que vous ayez bien sûr l'assurance d'être enfant de Dieu, d'être converti, d'être passé par la repentance. Il faut qu'il n'y ait rien dans votre cœur qui déplaise au Seigneur. Il faut vraiment que vous ayez confessé tout péché, qu'il n'y ait pas de rancune en vous, pas l'amour du monde. Il faut vraiment que votre cœur soit purifié. Et si vous avez pratiqué des choses occultes, justement, il faut demander pardon pour cela. On est étonné de voir que même des chrétiens pratiquent ces choses. Des chrétiens, tu dois confesser cela. C'est un obstacle, tu dois confesser ces choses. Amen. Et tu dois dire, Seigneur, j'ai faim et soif de toi. Est-ce que tu as vraiment faim et soif de cette onction, de ce baptême? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Tu dois être obéissant à sa parole. Quand tu obéis à sa parole, tu obéis au Seigneur. Et les premiers apôtres ont été visités parce qu'ils étaient obéissants à sa parole. Et quelle est la première obéissance? La première obéissance après la conversion, c'est le baptême d'eau. C'est le baptême d'eau. Qu'a dit Pierre le jour de la Pentecôte? Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et oui, c'est la première obéissance. C'est la première obéissance, le baptême d'eau. Et ensuite l'introduction dans une église fidèle, non pas idolâtre, mais fidèle à la parole de Dieu. Voilà l'obéissance, voilà comment Dieu agit. Les choses doivent être claires et nettes. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais il est un Dieu d'ordre.
Amen.
De vérité, de pureté, de lumière. Amen.
Amen.
Avec Dieu, ce n'est pas oui, non, oui, non, oui, mais ceci, cela. Non, Dieu est un Dieu de vérité,
Amen.
De clarté, de Amen. Lumière, de Amen. Sainteté. Nous devons Amen. Obéir et lui donner tout notre être. Amen.
Amen.
Alléluia, c'est un don, un don. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don que Dieu veut vous accorder. Mais toujours pour un témoignage, pas pour vous-même, pour les autres, pour être un meilleur témoin. Dites-lui, c'est pour être un témoin, c'est pour parler de toi. C'est pour parler de toi, ce n'est pas pour dire, voilà, moi j'ai reçu le baptême. Non, c'est pour parler aux autres, c'est pour parler du Seigneur. Et le Seigneur te visitera. Amen. Et vous savez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus a dit qu'il boive. Qu'il vienne à moi, à Jésus, et qu'il boive. Comment vous buvez-vous? Comment est-ce qu'on boit? Regardez. Pour boire, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses à faire, c'est d'ouvrir la bouche. Si vous n'ouvrez pas la bouche, est-ce que ça va rentrer? Il y en a qui essaient de faire rentrer l'eau par le nez. Il y en a qui en mettent dans les oreilles. Mais ça ne marche pas. Ils sont plutôt malades qu'autre chose. Ça ne vous désaltère pas. C'est plutôt la maladie. Mais tu dois ouvrir la bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Si tu veux le baptême dans le Saint-Esprit, tu dois ouvrir grande ta bouche. Et tu dis, Seigneur, merci, tu me remplis. Et il veut te donner des langues nouvelles. Mais c'est le Seigneur que tu recherches. Tu l'aimes tellement que tu veux lui parler, lui dire que tu l'aimes. Et Dieu veut te donner un langage extraordinaire pour le louer, l'adorer. Alléluia.
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 Amen.
Amen. Alors voilà, il va te donner des langues nouvelles. Mais ces langues nouvelles, c'est pourquoi? C'est pour dire, tu dis, Seigneur, ben, mon langage, mon vocabulaire est faible. Je ne peux pas dire tout ce que je ressens pour toi. Alors donne-moi des langues nouvelles pour te louer, te bénir. Alléluia. Alléluia. Alors pendant qu'on va prier maintenant, tous ensemble, on va chanter, on va louer le Seigneur en langue. Et je crois que la façon la plus profonde, la plus directe, la plus rapide, c'est dans un moment d'adoration. Tu ouvres ton cœur, tu demandes pardon au Seigneur s'il y a quelque chose qui a fait de la peine. Tu dois te purifier ton cœur et tu dois avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu, que tu es racheté par le sang de Jésus.